Chapitre 29.
2 octobre 1998, 13h15. Eila Ozan se tenait debout devant le 21 de la rue de la Butte-aux-Cailles. Elle tentait, en se hissant sur la pointe des pieds, de voir le plus loin possible dans le jardin. Rien ne bougeait. Les volets vert clair étaient désespérément clos. Et il la sonna plusieurs fois, longtemps. Personne. Elle finit par se retourner, marcha dans la rue, cherchant un indice quelconque. Elle était venue souvent chez Crédule Grand-Duc. Elle préparait à manger pendant que Crédule et Nazim travaillaient sur l'affaire, discutaient jusque tard dans la nuit. Elle les écoutait un peu, puis finissait toujours par s'endormir avant eux, dans le canapé, enveloppée par la chaleur de la cheminée, en comptant les libellules dans le vivarium. Bercée par la voix de ces deux hommes, l'homme de sa vie et son meilleur ami. Où pouvait-il bien être passé ? Personne chez Crédule, aucun signe de vie de Nazim depuis 2 jours. Quelque chose ne tournait pas rond. Et il passa devant un bar, le temps des cerises. Elle hésita à entrer pour se renseigner. Crédule venait parfois prendre son café ici. Elle s'arrêta, consciente que sa démarche n'était pas très naturelle. Avant de quitter le kebab, boulevard Raspail, Ella avait attrapé un grand couteau de cuisine, le plus affûté. Elle l'avait enveloppé dans un sac plastique et l'avait glissé le long de sa jambe, sous son pantalon large. Il était trop long. Il ne rentrait pas dans son sac à dos. Une arme de fortune, au cas où. Elle n'arrivait pas à évacuer ce terrible sentiment de danger. Et là embrassa d'un regard la rue de la Butte-aux-Cailles. Il y avait un peu de monde, des mères et des enfants, des clients dans la boulangerie. Soudain, elle se figea. Son cœur explosa sous son long manteau d'hiver. La BMW X3 noire de Crédule était garée le long du trottoir, à 50 mètres de chez lui. Aucune trace, par contre, de la Xantia bleue de Nazim. Nazim s'était rendu chez Crédule. S'ils avaient quitté ensemble la maison de la Butte-aux-Cailles, pour quelle foutue raison avait-il préféré prendre la Xantia sale et cabossée plutôt que la BMW ? Surtout ce vieux maniaque de Crédule. Eila arpenta les alentours. La rue Sanson, le passage Boiton, la rue Jean-Marie Gégaud, la rue Alphand, à pas lents, traînant comme elle pouvait sa jambe raide à cause de la lame du couteau. Elle se disait que le sac plastique pouvait céder à n'importe quel moment, que l'acier allait lui rentrer dans la jambe, qu'elle allait s'effondrer, là, dans la rue, comme une sotte.
Vous cherchez quelque chose ?
Un type avec un chien la dévisageait, le genre de voisin à ne pas trop aimer les étrangers qui traînent dans le quartier, surtout une Turque tournant autour des voitures garées là.
Je suis une amie de Crédule Grand-Duc. Il habite au 21 rue de la Butte-aux-Cailles. La petite maison avant le temps des cerises. Il n'est pas là, mais sa voiture est garée près de chez lui. Une BMW noire. Vous n'auriez pas vu une autre voiture, une Xantia bleue ? Le type la regarda comme s'il appartenait au service de l'immigration du ministère de l'Intérieur chargé de délivrer des cartes de séjour dans le quartier. Il consulta son chien.
Un pare-choc cabossé, un pot pourri de fleurs croché au rétroviseur, un drapeau turc collé sur le pare-brise, c'est ça, non ?
Le type marqua un silence d'autosatisfaction pendant qu'Eila reprenait espoir et acquiesçait en se fendant de son plus beau sourire, même si l'homme semblait davantage faire confiance à l'instinct de son chien qu'au charme ottoman. Pour l'instant, le bâtard marron clair se collait affectueusement aux jambes d'Eila.
« La Xantia est restée garée dans le quartier ces derniers jours. »
Finit par lâcher l'homme.
« Mais elle n'est plus là depuis hier. Ah, c'est certain, vous ne la trouverez pas. Pas la peine de s'attarder. »
Le couteau sur sa cuisse faisait souffrir Eila, et la truffe de ce crétin de chien contre sa jambe allait bien finir fendue en deux, façon viande à kebab. Elle se baissa pour éloigner le bâtard, tout en essayant de modifier sa position. Le type la regarda, plus méfiant encore. C'était un sale con, mais il pouvait lui être utile. Eila distribua un sourire au facho et une caresse au chien. Pas de jaloux. Et... vous m'avez l'air de bien connaître le quartier. Vous n'avez pas vu quelque chose de nouveau ces derniers jours, ces dernières heures ? Quelqu'un de nouveau, par exemple ? Une autre voiture qui ne serait pas du quartier ? Le type la dévisagea, étonné de son audace. Il tira instinctivement sur la laisse.
et il la continua. Elle n'avait rien à perdre. Un étranger, vous voyez. Il hésita encore, mais ne put résister au plaisir de se rendre utile.
Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
Il regarda son chien comme pour lui faire partager sa jubilation.
Une Rover Mini bleue, assez neuve. La propriétaire a traîné dans le quartier presque toute la matinée. Une fille avec une tête de vieille sur un corps de fillette. Bizarre, louche, avec un regard de faucheton. C'est ce que vous cherchez ?
Le visage d'Eila Ozan avait brusquement blanchi. Bien entendu, elle avait compris de qui parlait ce type. Nazim lui avait souvent décrit Malvina de Carville, son physique hors norme, ses caprices, cette voiture, cette Rover Mini offerte par sa grand-mère richissime. Nazim lui avait également souvent dit que cette fille était devenue complètement cinglée depuis l'accident d'avion. Folle et dangereuse. Et il la paniqua. « Bien, oui, mais merci. » Que pouvait-elle faire maintenant ? Foncer à la police ? Lancer un avis de recherche ? On lui poserait des questions. Elle devrait révéler alors tout ce qu'elle savait sur l'affaire, sur les Carville, sur Nazim. Il n'était disparu que depuis 2 jours. Parler, c'était le livrer aux flics. Jamais Nazim ne le lui pardonnerait. Le type au chien s'éloignait, tout en continuant de la regarder en biais. Non, elle devait s'en sortir seule. Elle en connaissait suffisamment sur les Carville. Elle n'avait oublié aucune des confidences de Nazim sur l'oreiller lorsqu'il s'effondrait sur le dos après avoir joui. Le facho et son chien marron disparurent à l'angle de la rue Sanson. Eila était agitée d'un étrange frisson, mélange d'angoisse et d'excitation. Elle repensait au corps de Nazim, à la caresse sur sa peau de la moustache de son gros géant. Elle avait tellement envie de se blottir dans ses bras, de danser devant lui, d'agiter son petit ventre rond sous son nez pour l'exciter, pour qu'il l'embrasse goulûment. Eila se pencha et serra le couteau froid sur sa jambe. Elle n'avait qu'une piste, Malvina de Carville. Eila était seule, mais elle n'était pas stupide. Les Carville habitaient dans la banlieue Est, près de Marne-la-Vallée. Elle trouverait bien. Elle partageait depuis 20 ans le lit d'un détective privé. Elle parviendrait à se débrouiller.